Gloire à Dieu, on est en train de continuer notre étude sur les chrétiens et les religions. Il y a encore des choses à voir, même si des fois on se dit on va changer de sujet. Oui, un jour on va changer de sujet, je vous le garantis. Mais je veux pas vous garantir quand, puis je ne veux pas garantir que j'en reparlerai jamais. Parce que je vois qu'est-ce que Dieu me donne, puis on est encore là-dedans. Gloire à Dieu, parce que Dieu veut nous affirmer, puis il veut vraiment qu'on n'ait pas le goût d'y aller. Parce que il veut vraiment nous montrer qu'on n'ait pas de goût d'aller s'aimer de ce qui se passe dans un culte qui ne lui appartient pas. Dieu veut qu'on le cherche lui seul. Amen.
Amen.
Amen. Le sujet du message aujourd'hui, y a-t-il des conséquences pour ceux qui abandonnent la vérité et se tournent vers le mensonge? Y a-t-il des conséquences? Puis là, on est obligé de parler de ce sujet-là, même si ça ne plaît pas, parce qu'il y en a des gens... qu'ils vont écouter ça, ils vont dire « Ah ben moi, je suis sous la grâce, puis aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Puis là, ils se servent de ça pour se dire « Ben là, je suis en Jésus, je serai pas condamné. » Fait qu'ils se livrent à n'importe quoi, puis ils pensent qu'ils n'ont aucune règle à respecter. Puis ils marchent tout croche dans leur vie chrétienne, ils se permettent toutes sortes de choses que Dieu veut pas, en se disant « Mais Dieu m'a pardonné, c'est pour tous mes péchés. » Puis là, ils pensent que c'est pas grave. Mais ça, c'est une doctrine qui est fausse, c'est une mauvaise compréhension de la Bible. Puis, c'est pas ça que la Bible dit. Oui, tu peux avoir l'assurance qu'une fois que tu es pardonné, tu es en communion avec le Seigneur, oui. Mais il faut toujours comprendre qu'on fait des choix à tous les jours, puis il y a des conséquences à nos choix. Bon, Dieu ne nous a pas créé robots, il nous a donné la liberté de penser, de réfléchir, d'analyser, comprendre, puis même il permet qu'on ignore les bonnes choses, qu'on fasse plein d'erreurs, puis on n'apprend pas de nos erreurs. Mais Dieu veut pas qu'on s'éloigne comme ça, puis qu'on vive dans les erreurs, puis qu'on n'apprenne pas de nos erreurs. Il nous demande de considérer ce qui se passe dans notre vie, de sonder, d'analyser, puis de comprendre, puis pas répéter les mêmes gaffes, parce que Dieu nous donne de la sagesse, l'intelligence, le discernement, la connaissance, il développe notre pensée pour qu'on sache discerner quelle est la volonté de Dieu. Quand il nous amène à discerner la volonté de Dieu, c'est-tu pour nous amener à pécher encore plus davantage? Pas du tout. Si tu discernes, c'est dans le but de choisir ce qui est bon, puis de rejeter ce qui n'est pas bon. Amen.
Amen.
Bien que Dieu a tout accompli pour que nous soyons sauvés, pourquoi nous voyons dans la Bible qu'il y a encore des gens non sauvés? Dieu a tout accompli pour qu'on puisse être sauvé. Comment ça se fait qu'on voit dans la Bible des gens qui ne seront pas sauvés? Puis on voit ça dans l'Apocalypse, comme par exemple, Dieu va ressusciter les gens qui sont avec lui, puis il va ressusciter la dernière batch pour se comparaître devant le grand trône blanc. Puis ça nous dit, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pourquoi qu'il y a tant de monde qui vont être jetés là dans les temps de feu? Pourquoi que leurs noms n'ont pas tous été inscrits automatiquement? Parce qu'ils ne suivent pas la voie. Il y a une voie, puis cette voie-là commence à Jésus. Tu t'en vas à Jésus parce que Jésus est la porte, puis tu suis Jésus parce que Jésus est le chemin. Il n'y a pas d'autre place à aller. À la base, on est tous pareils, on est tous des pécheurs. Sauf qu'on a besoin d'être pardonnés. Il faut le réaliser pendant qu'on est ici. Mais si on meurt dans nos péchés, on est fait. Il faut aller à Jésus pour être pardonné. Il faut suivre Jésus jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est ça qui est le plan de Dieu. Puis pourquoi dans certains versets, si Dieu a tout accompli pour qu'on soit sauvé, pourquoi que dans certains versets, nous voyons des gens croyants qui rétrograderont, rétrograder, ça veut dire retournant en arrière dans leur vie comme qui était avant. Ils ont reculé. Pourquoi que des gens croyants qui rétrograderont, qui apostasieront, parce qu'apostasier, ça veut dire abandonner la foi, divorcer de Dieu, renier Dieu. C'est du monde qui avait la foi, là. Pourquoi que si Dieu a sauvé tout le monde, qu'il y a des gens croyants qui vont rétrograder, on voit ça dans Hébreux, on voit ça dans plusieurs passages, on voit ça qu'ils vont apostasier, puis on voit aussi que finalement, ils n'entreront pas dans le royaume, malgré qu'ils avaient la foi. Mais il y a des raisons pour cela. Pourquoi que les gens n'entreront pas malgré que toutes les promesses sont là? Dieu voulait-il sauver que quelques personnes ou s'il voulait que tous soient sauvés?
Tous.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est écrit dans 1 Timothée. Ça nous dit à une autre place, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui. Quiconque, ça veut dire, peu importe qui ce que t'es, Dieu t'appelle pour être sauvé. Réalise qu'il faut que t'ailles à Jésus pour être pardonné. L'accès est là, c'est par Jésus seul. Nous devons savoir que nous sommes responsables. Le problème, là, c'est là, là. Nous sommes responsables des décisions que nous prenons. Puis qu'il y a toujours des conséquences à nos choix. Dieu n'a pas forcé personne depuis le début. Même l'apôtre Paul, qui est en face de Jésus, il est apparu à Jésus. Paul n'aura pas encore dit, « Je veux rien savoir de toi, Jésus. Moi, je veux suivre encore ma religion. » Même après avoir eu une révélation de Jésus, il n'a pas fait de lui un robot. Paul s'est converti parce qu'il a voulu se soumettre, puis il a baissé la tête, puis il a accepté que Jésus, c'était le Messie. Lui, il s'opposait à cela, qu'il ne croyait pas que Jésus était le Messie, puis il persécutait les chrétiens jusqu'au moment où Jésus lui est apparu, puis il a posé la question, « Qu'en fais-tu que tu me persécutes? » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Là, il a pogné un nœud. Il a réalisé que son combat contre Jésus, que c'était inutile, que le vrai Dieu créateur de toutes choses, c'était Jésus-Christ. Fait qu'il a accepté. Il a pas devenu un robot. L'idée, c'est qu'on a tous des choix à faire. On est tous à quelque part, on prend une décision, soit d'aller à Jésus ou de le rejeter. Ou après ça, dans le chemin resserré, le Seigneur nous montre des affaires, il nous oblige pas, il nous le dit, mais il nous demande de le faire. Mais il s'attend à ce qu'on obéisse, mais il nous forcera pas. Des fois, il va chicaner, il va serrer à la vis, pareil comme un papa, qui serre la vis de son petit gars ou sa petite fille, puis il dit là, reste assis là, tranquille un peu, là. Là, tu te mets assis, là, tu n'as pas le choix parce que papa, il te met en pénitence. Des fois, Dieu, il met en pénitence des personnes. Mais, il ne force pas. Les gens sont toujours libres de le suivre. Mais, il y a des conséquences dans notre cheminement. Dans Matthieu 12, 37, ça nous dit, « Car par tes paroles, tu seras justifié, car par tes paroles, tu seras condamné. » Ça veut dire, faisons attention à ce qu'on prend comme décision. T'as des bonnes puis t'as des mauvaises décisions. Évite les mauvaises décisions. Si tu veux que le Seigneur te montre quelque chose, on est mieux d'obéir. On a tout à gagner d'obéir que de se rebeller puis de dire, moi, non, moi, je suis ma vie puis je la fais à mon bout. Mais il y en a qui choisissent cette voie-là puis ils rejettent Jésus. Mais les conséquences sont là. Dieu voulait sauver tout le monde, mais les gens refusent. Mais là, Dieu parle à son peuple particulièrement dans ce message-là, parce qu'il veut qu'on réalise qu'on est responsable devant lui, puis il veut qu'on prenne la bonne décision. C'est ça qui est important. Le chrétien fait face toute sa vie à des choix qui nous amènent à obéir à Dieu, ce qui nous rapproche de Dieu, ou d'autres choix qui nous en éloigneront de Dieu. Nos choix ont des conséquences. Si tu fais des choix pour dire, je vais prendre plus de temps pour prier que le Seigneur, je vais prendre plus de temps pour lire la parole, plus de temps pour aller à l'église, puis là, tu mets plus de temps dans les choses de Dieu, tu vas automatiquement t'approcher de Dieu. Tu vas réaliser des choses, tu vas prendre le choix de rejeter ce que Dieu aime pas, puis d'ajouter à ta vie ce que Dieu aime, tu vas avoir une conséquence à cela, tu vas avoir une conséquence de te rapprocher. Mais le contraire aussi, si je prends des choix puis du moins j'ai plus le temps de prier, j'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas le temps d'aller à l'église, puis là je m'occupe de plein d'autres affaires. Où est-ce qu'elle est ma nourriture spirituelle? Mais mes conséquences, la même chose si quelqu'un décide. Moi j'arrête de manger, là je saute mes trois repas par jour, je les saute. Tu vas faire ça un bout, mais tu vas avoir des conséquences. À un moment donné, au bout de 2 mois, tu n'existes plus, tu n'es plus là. T'es mort. Puis là, on va dire, le coffin qui est mort, ben, il a pris le choix de ne plus manger. Il a fait une grève de la faim jusqu'à en mourir. La conséquence est automatique. Il n'y a pas un humain sur la terre qui peut éviter cela. De se dire qu'il ne mange plus pendant 2 mois, puis il pense que ça ne l'affectera pas. Ça serait même illogique de penser qu'on pourrait se priver de nourriture pendant 2 mois, puis être encore en vie, puis être en pleine forme. C'est une illusion, c'est un mensonge. Il y a des conséquences obligatoires. C'est sûr et officiel, si tu te prives de manger pendant 2 mois, tu vas mourir. Puis c'est pas un mystère. Puis je suis sûr, je poserai la question à tout le monde. Tout le monde va dire oui, c'est vrai. On est sûr de cela, mais spirituellement, c'est la même affaire. Nourris-toi pas, lis pas la Bible, prie pas, va pas à l'église. Cherche pas Dieu, c'est sûr que tu vas avoir des conséquences, que ça va aller mal dans ta vie, spirituellement parlant. C'est la même chose. On peut pas l'éviter. On n'est pas plus fin que Jésus. Jésus, c'était Dieu lui-même. Puis Jésus prenait le temps de prier, puis il priait toute la nuit, puis il priait, puis il parlait du royaume, puis il parlait de la Bible, puis il parlait des versets. Il se nourrissait. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il se nourrissait par-dessus toute nourriture, il lâchait pas. C'était ça, sa vie. Parler de Dieu, puis de se nourrir des choses de Dieu, puis de voir, de faire les œuvres de Dieu. C'était ça, sa nourriture. Puis il se gardait bouillant spirituellement. Ça aurait été la même chose pour Jésus s'il avait arrêté de prier pendant 2 mois, 6 mois. Puis qu'il lirait plus la parole de Dieu, puis qu'il vivrait en se permettant n'importe quoi, mais il serait dans des temps de feu lui avec. Il n'y a pas d'exception pour cela. Parce qu'on ne peut pas se permettre des péchés puis penser que ce n'est pas grave. Il y a des conséquences aux péchés. Pour nous, si on en fait, c'est aussi grave que si Jésus en aurait fait un, lui-ci, ça aurait été aussi grave. Il serait perdu lui avec, il aurait eu besoin d'un sauveur. Il ne pouvait même pas se permettre d'en faire un. Fait que nous, c'est la même affaire. On ne peut pas se permettre d'en faire un. Ça peut arriver qu'on ne fasse pas exprès, puis on demande pardon. Mais c'est toujours grave, pareil. Puis si on en pratique volontairement, comme si rien n'était, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des conséquences dans notre vie. Notre vie spirituelle ne s'en portera pas bien. Tu peux être encore les 2 pieds debout, avoir encore un beau sourire quand on vient à l'église. En dedans, c'est sec, c'est vide, c'est comme un désert. Ah, puis là, on a soif de quelque chose, mais on ne sait pas où aller chercher cette eau-là, ce rafraîchissement-là. C'est avec Dieu que tu vas l'avoir.
Amen.
Pour nous dire que les chrétiens font face toute leur vie à des choix qui nous amènent à obéir à Dieu, ça nous rapproche de Dieu, ou d'autres choix qui nous en éloigneront. Dans Jacques 4:7, ça nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Voyons-nous les efforts, les choses à faire et à ne pas faire. Approchez-vous, soumettez-vous, résistez, puis nettoyez vos mains, nettoyez vos cœurs. Fait qu'il y a de quoi à faire si on veut que spirituellement, ça y aille mieux. Amen.
Amen.
Les chrétiens doivent toujours résister à la multitude de personnes qui essaieront de vous amener à relâcher votre obéissance au Seigneur. Toute ta vie, il faut que tu apprennes à dire non aux personnes qui essayent de te faire abandonner d'obéir au Seigneur. Toute ta vie, tu vas en rencontrer, surtout nos proches qui ne connaissent pas Jésus. Puis eux autres, pour eux, c'est inutile de suivre Jésus. On perd notre temps de suivre Jésus, c'est ce qu'ils essayent de nous convaincre. Ils ne comprennent pas. Bien, ils ne comprennent pas, puis je comprends qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas les autres versets qui nous disent que c'est important, puis qu'il y a une vie éternelle après, puis nous autres, on se prépare pour notre éternité. J'ai compris qu'ils ne comprennent pas. Mais on va avoir à résister à leur résistance qu'ils peuvent nous dire, leurs paroles. Des fois, c'est des petites paroles en joke, en crack, puis des fois, ça va être des paroles méchantes, blessantes, qui vont essayer de nous décourager de servir Dieu. Mais on le sait que nous autres, on veut se rendre, puis on va mettre tous nos efforts pour se rendre. Si eux autres ne le veulent pas, libre leur choix. Mais ils vivront leurs conséquences. Nous, on le sait que nos conséquences qu'on veut de servir le Seigneur, on les veut, puis on va se rendre, puis on va rester jusqu'à la fin, puis on va persévérer. Amen.
Amen.
Dans 1 Jean 2, 26, c'est l'apôtre Jean qui dit, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Il y a des gens qui sont là pour nous égarer. Ils n'ont pas été destinés à cela nécessairement. C'est à cause qu'ils sont égarés qu'ils essayent d'égarer les autres. C'est à cause qu'ils sont aveugles et ils ne voient pas le chemin. Mais il y en a des gens comme ça. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a du monde qui essaye de nous en empêcher de suivre et de prendre ces décisions-là semaine après semaine. Pourquoi faire, man, tu vas encore à l'église? Pourquoi faire, man, tu pries? Pourquoi faire, pourquoi faire, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça donne? Là, ils ne comprennent pas. Mais nous, on le sait que c'est important dans notre vie chrétienne. Fait qu'on va prendre des choix pour s'en rendre. Le Saint-Esprit veut nous conduire de plus en plus proche de Dieu puis de nous garder en lui, en Dieu. Une communion qui s'est commencée quand on a donné notre vie au Seigneur. On apprend à développer cette communion-là. On apprend à discerner l'écoute. Marie-Joanne, un matin, dans sa prière, elle disait qu'il nous montre des petites affaires ici, puis là, pour que Dieu nous montre, pour montrer qu'il est là. Même si tu ne ressens pas tout le temps, il te le montre qu'il est là. Il y a des choses. Mais ça, là, c'est important de découvrir. Dieu, il est là. Puis Dieu, il essaie de nous donner des petits signes qu'il est là. Il faut être attentif. Ça va booster notre foi. Ça va nous faire grandir si on réalise. Puis c'est important. Le Saint-Esprit, dans 1 Jean 2, 27, quand le Saint-Esprit veut nous conduire de plus en plus proche de Dieu, puis qu'on garde notre contact avec lui. On voit ça, il dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, elle demeure en vous. » C'est le Saint-Esprit, ça, cette onction-là. Il demeure en nous. Il a fait sa demeure en nous. Là, il dit, « Il vous avait pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses, puis qu'elle est véritable, elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, puis qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés. » Voyez-vous pourquoi qu'il faut rester en lui? C'est parce qu'un jour, il va revenir. Ça va se faire. Puis on ne passera pas à côté. Personne ne va passer à côté. Jésus va revenir, puis ceux qui sont en lui, ils embarquent. Puis ceux qui sont confus et éloignés, parce que là, il est amêlé, là, ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas demeuré dans les enseignements de l'onction. Fait qu'ils ont décidé, là, ils sont encore à la recherche de je sais pas quoi. Ils savaient pourtant que Dieu s'était révélé à travers Jésus, puis que là, tu nais de nouveau, tu reçois Dieu en toi, le Saint-Esprit, tu le reçois quand tu te convertis. Si tu le sais, reste là, reste connecté là, abreuve-toi, laisse-toi parler, enseigner, garde ce contact-là. Le jour qu'il va revenir, tu vas être trouvé en lui, puis là, tu vas partir avec... Mais il y en a, puis ça nous dit dans ce verset-là, « Petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et non pas qu'à son avènement, nous soyons confus et éloignés. » Si ça nous dit ça, c'est parce que c'est possible qu'il y en a qui deviennent confus puis qui s'éloignent. Le Saint-Esprit nous enseigne, puis nous enseignera, ce qui provient des enseignements de la parole de Dieu, ce qui vient de Jésus. Parce que là, ça nous disait que de demeurer dans l'onction, puis dans l'enseignement que l'onction te donne, puis tu n'as pas besoin d'être enseigné, il va t'enseigner lui-même, oui. Mais il va t'enseigner ce qui vient de la parole de Dieu, pas n'importe quoi. Parce qu'il y en a que sous le Saint-Esprit, là, ils partent des nouvelles affaires qu'il n'y a même pas écrit dans la Bible. Là, ils pensent qu'ils sont encore en Jésus, mais ils sont mêlés, ils sont confus, puis ils savent pas où ils s'en vont. Le Saint-Esprit, son travail, c'est de ramener aux paroles de Jésus, tout le temps. Il n'y aura pas en dehors de cela. C'est écrit dans le prochain verset, dans Jean 16, 13 et 14. Ça nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera pas de lui, mais il parlera pas de lui-même, comme si ça serait des nouvelles affaires que lui-même invente. C'est ça que ça dit, ce verset-là. Mais il dira tout ce qu'il a entendu, puis il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, c'est Jésus qui parle, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que le Saint-Esprit ne parle pas des nouvelles affaires. Saint-Esprit veut t'enseigner à rester dans la parole de Dieu, dans les enseignements de Jésus. C'est toujours le même chemin qui était enseigné il y a 2000 ans. Ce qu'il a entendu, Saint-Esprit, là, il l'a entendu de Jésus. Puis là, il répète les choses que Jésus a enseignées, puis on reste dans ce qui est écrit là. C'est ça le chemin qui nous emmène à la bonne place, de prendre la décision de suivre le chemin qui nous emmène à la bonne place. Notre marche avec Dieu est aussi importante que d'accepter Jésus comme notre sauveur. C'est important d'accepter Jésus comme notre sauveur. C'est le départ de notre vie chrétienne. Mais c'est aussi important notre marche avec Dieu, après l'avoir accepté, de demeurer en lui selon les enseignements qu'il nous a donnés, selon les enseignements que Jésus nous a donnés. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça notre marche. Il nous amène à marcher en communion puis de demeurer en lui afin qu'au jour où il va revenir, bon, on se retrouve avec lui. Puis dans Philippiens 3, 18, il nous dit, « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Puis ça, quand tu marches en ennemis de la croix, c'est pas le Saint-Esprit qui t'amène là. Même s'il y en a qui pensent qu'ils sont amenés là par Dieu, si tu prêches d'autres choses, qu'est-ce que Jésus a enseigné, t'es rendu en ennemi de la croix. Il y en a plusieurs qui marchent là-dedans. Puis ça nous dit au verset, ça c'est le Philippiens 3, 18, le verset 19 nous dit, « Leur fin sera la perdition. » Ceux qui marchent en ennemi de la croix, qui n'ont pas compris ou qui ont compris, puis ils résistent, puis ils s'éloignent, parce qu'il y a deux raisons pour que le monde ne suit pas. Soit qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils n'ont pas entendu, ou ils l'ont entendu, mais ils ne veulent pas se soumettre. Ça, c'est une autre affaire. Puis Jésus, lorsqu'il reviendra, dans 2 Thessaloniciens 1, 8, si tu lis les versets qu'il y a là, ça nous dit, il va revenir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Voyez-vous, c'est important d'obéir au chemin. Qu'est-ce qu'on dit aux enseignements de Jésus qui proviennent de l'Évangile? Jésus va revenir pour punir ceux qui n'obéissent pas aussi. Puis dans ce verset-là, ça nous disait, il marche en ennemi de la croix. La croix, elle nous enseigne tel chemin, le chemin de Jésus, puis les gens marchent comme dans le contraire. Ceux qui enseignent des religions sont déclarés menteurs par la parole de Dieu. Ils pêchent contre les commandements de Dieu. Puis la Bible nous dit, la perdition éternelle les attend. Il n'y a pas de salut en dehors que de le chemin de la croix qui est en Jésus. On est tous pécheurs, mais on n'a pas tous raison de penser que notre religion est bonne pour nous sauver de nos péchés. Voyez-vous? On est tous égaux, on est tous des pécheurs. Mais on n'a pas tous raison de croire que notre religion nous sauve. Puisque Dieu a dit que nul ne vient au Père que par Jésus. Fait que tous les autres enseignements de religion qu'il y a sur la terre sont tous fausses. Sinon, Jésus aurait dit, suivez vos religions, tout est correct. Il n'aurait même pas eu besoin de les mourir sans croix. N'importe quelle religion aurait fait. C'est pas ça qui est le chemin. Le chemin, c'est que t'as pas le choix. Peu importe ta religion, faut que tu décides d'abandonner ta religion puis de mettre ta foi dans le Messie qui est annoncé d'avance avant qu'il vienne dans les écrits de l'Ancien Testament. Il est annoncé, il est venu, puis t'as pas le choix d'y croire. Peu importe ta race, ta religion, ta couleur de peau ou de ta langue. Nous aussi, 2000 ans plus tard, à l'autre bout de la planète, ici à Beauharnois, on n'a pas eu le choix. Fallait accepter Jésus si on voulait être sauvé. On s'est soumis à ce chemin-là. Merci Seigneur.
Amen.
En parlant des religions, dans Jérémie 51, les versets 17 et 18, Dieu déclare comment est-ce que la science de ces religions-là, la connaissance de ces religions-là, ou de ces pratiques idolâtres, c'est de la stupidité pour lui. Il n'appelle pas ça de la science, même si ça sera un érudit de la religion X. Peu importe ta religion, même si le personnage se pense bien connaissant, puis bien fondé dans toute une science, puis qu'il est capable d'enseigner des professeurs pour pouvoir former d'autres personnes à enseigner d'autres mondes, même si tu auras toute la connaissance, mais si c'est une connaissance basée sur une religion, c'est de la folie pour Dieu. Il dit, Jean Jérémie 51, 17 et 18, il dit, « Tout homme devient stupide par sa science. » Si tu vas pas à la science de Dieu, toute ta science humaine n'est que stupidité. Tout orfèvre, un orfèvre, c'est un fabricant d'idoles. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, sa statue, son idole qu'il a créée. Toute la science que la religion puis la représentation de leur idole, c'est de la stupidité, c'est une honte devant Dieu. Dieu a rejeté tout cela, il n'a pas accepté aucune de ces religions-là. Car ces idoles ne sont que mensonges. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je vous le dis que c'est des mensonges. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire, mais croyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Toute forme d'image, de statuette, de statue, de médaille, de représentation, en petit ou en gros, c'est toute de la stupidité, de la honte, puis c'est du mensonge que ces versets-là nous disent. Elles n'ont point en elles de souffle. Ils n'ont pas de vie. Ça n'existe pas aux yeux de Dieu. C'est les hommes qui sont créés ça par leur imagination. Puis ils sont mêlés, ils sont honteux, leur science est stupide, ça ne sert à rien. Il dit, elles sont une chose de néant, ça nous dit encore, une œuvre de tromperie. C'est une œuvre de tromperie. Une œuvre de tromperie, c'est qu'ils ont créé ça pour tromper les autres. Ils se sont trompés eux-mêmes en l'acceptant, puis ils trompent les autres en les demandant de croire en ces choses-là. Puis le verset dit, elles périront quand viendra le jugement. Toutes ces choses-là qui ont été faites, des religions avec leurs sciences et leurs idoles vont périr au jour du jugement. Il n'y a rien qui va rester debout devant Dieu. Tout va être jeté à terre, ce système religieux-là, qui s'oppose par rébellion à la parole de Dieu, puis au Dieu suprême révélé en vérité par le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Il faut comprendre que le salut, il est par la foi en la vérité. Puis la vérité, là, c'est il n'a pas 50 vérités, il n'a juste une vérité. Comme disait Saul, un comédien, la vérité. La vérité, c'est quelque chose de vrai, c'est la vérité. Si quelqu'un s'attache à d'autres religions, il est en train d'abandonner la foi qui sauve. Parce que t'as pas le choix. T'es attaché à la vérité. Ou si tu te mets à croire en une autre religion, ou à pratiquer une autre religion, t'es en train de démontrer que tu ne crois plus à la vérité. La vérité, il n'y a juste une. C'est Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et sa parole qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre chose que cela. Il faut rester à cela, puis rejeter toutes les idoles et les religions. 1 Timothée 4, 1 et 2, ça nous dit que le Saint-Esprit il a parlé pour les temps où nous sommes présentement. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, parce que les derniers temps, c'est un bout de c'est commencé, mais on est dans la fin des derniers temps, on arrive à où est-ce que ça va terminer bientôt. L'Esprit a parlé que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi en la vérité. Ils vont abandonner la foi dans la vérité pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est dur, hein? C'est dur, ces paroles-là. Tu sais, on dit la Bible, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Mais quand c'est le temps d'appeler une chose par son nom, c'est appeler par son nom. Une religion, peu importe l'idole, peu importe quel statut ou quel dieu que se sont faites, peu importe comment ce qu'ils l'appellent, si c'est pas le dieu de la Bible, la vérité, c'est pas ça, c'est esprit séducteur puis doctrine de démons. C'est le diable qui a fait ça, qui a mis ça en place, les religions, pour tromper les gens. Parce que le vrai Dieu s'était révélé aux Juifs, mais le monde ont rejeté ce que Dieu a donné aux Juifs, même s'ils ont vu des miracles, même si Dieu l'a prouvé, même si ce livre-là qui contient tous les faits, il est encore là aujourd'hui, la Bible, il est encore là, le livre, tout le monde peut le lire, mais le monde, il aime mieux le mensonge, il rejette la Bible, puis il croit en toutes sortes de choses non bibliques, puis il ne cherche pas, parce qu'il serait intelligent, il chercherait Dieu. Mais ça dit, on n'est pas intelligent, humainement parlant, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, c'est ce que la Bible déclare sur l'humanité. Mais il y en a quelques-uns qui découvrent Dieu, puis qui vont à Dieu. Puis ça nous le dit que dans la fin des temps, les religions vont être là, puis il y en a qui vont abandonner la vérité pour se tourner vers ces doctrines démoniaques-là. Il n'y a pas de place pour les fausses doctrines provenant des religions. Si tu veux suivre le Seigneur, il faut que tu sois 100% dans la vérité. Tu n'as pas le temps, puis tu n'as pas de place de ton cœur que tu dois laisser ou entendre ou vouloir être attiré par ces choses-là. Il faut que tu rejettes ça. Si quelqu'un y va dans ces choses-là, est en train de se retirer de la foi qui sauve, puis il sera perdu. Dans Hébreux 10, 38, la foi qui sauve, là, il en parle, là, il dit, « Et mon juste vivra par la foi. » La foi qui sauve, là, c'est ce qui nous assure d'être vivants spirituellement, puis de rester debout jusqu'à la fin. Mais s'il se retire, si on abandonne la foi, si on se retire de la vraie foi, puis qu'on se tourne vers les faussetés, les faux dieux, les esprits séducteurs, doctrine de démons, ça dit, mon âme prend plus plaisir en lui. C'est Dieu qui parle dans ce verset-là. Si mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, s'il se met à croire en d'autres choses, il dit, mon âme prend plus plaisir en lui. Dieu prendra plus plaisir en lui. Ça dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme.
Amen.
Si on veut être sauvé, frères et sœurs, c'était pas juste de l'avoir accepté v'là 25 ans, ou v'là 10 ans, ou v'là 2 ans. Ça, c'était correct de l'avoir accepté. Persévérons dans la foi en au Sauveur, seul et unique Sauveur, Jésus-Christ, jusqu'à la fin. Laissons-nous pas attirer. Prenons des décisions de rester connectés, puis d'être à l'écoute, puis de rester ferme, peu importe l'opposition. Amen. C'est ce qu'on veut. En acceptant des fausses doctrines, nous acceptons dans notre vie les démons qui les ont inspirés. Si tu dis, oh oui, cette religion-là a de l'impopée, là tu commences à t'informer, tu commences à être à l'écoute, tu veux en apprendre, tu vas faire un tour pour aller visiter, puis là tu es en train de fraterniser avec qui en fin de compte? Avec ceux qui ont mis en place cette religion-là. C'est pas Dieu. C'est des mauvais esprits, des doctrines de démons. On voit encore ça dans 1 Timothée 4, 11. Si nous fraternisons avec des idoles, nous nous souillons par les démons de ces religions et Dieu ne nous recevra plus si on ne se repent pas. Si on voit ça dans 2 Corinthiens 6, 17, ça nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est Dieu qui parle. Des conséquences terribles. Je vous disais tout à l'heure, il y a des conséquences. Nos choix nous amènent des conséquences. Si on fait fi des avertissements, puis on dit, je vais aller voir pareil, bon, c'est comme si à ton enfant, tu viens de l'endimancher, là, tu viens de l'habiller tout propre, puis tu lui dis, va pas jouer dans le trou d'eau. La première nouvelle que tu vois, il est assis dedans. Mais un enfant, ça se comprend. Mais un adulte, on est supposé de la connaître, la parole. Si Dieu nous dit « touche pas », ça nous le dit dans ce verset-là, dans 2 Corinthiens 6, 17. « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Si on veut être accueilli par Dieu, faut pas toucher à ça. Si on devient tout sale, on est souillé, il nous accueillera pas. Il va nous rejeter. Mais à moins qu'on se repente, mais il faut se repentir. On n'a pas le droit de faire ça. Puis l'œcuménisme emmène tout le monde. La séduction, puis les religions, puis même les églises évangéliques qui se ramassent séduits par ces choses-là. C'est fort. Si nous participons au culte des idoles, nous recevrons, non, nous devenons en communion avec les démons. Notre contact avec un esprit. On pense qu'on est en contact avec l'Esprit de Dieu, puis on est aussi dans un temple d'idoles, mais le contact qu'on a, puis les révélations qu'on a, puis les touches qu'on a, puis les liens qu'on va être enchaînés, parce que c'est sûr qu'on va avoir des chaînes dans nos vies, puis on va avoir des problèmes à cause du contact de ces démons-là. Si on voit ça, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20. Paul est en train de le dire aux Corinthiens. Il dit, ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons et non à Dieu dans les temples d'idoles. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Il parle à des chrétiens, là. Des chrétiens qui ici rentrent là, puis participent à ces affaires-là. Ils vont être souillés, puis ils vont être en communion avec ces démons-là. Ça a des conséquences. Les chrétiens qui abandonnent les enseignements de l'Évangile seront perdus. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 1 et 2. On va vous le lire. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire que le bout que tu as cru, tu vas avoir cru en vain. Si un jour tu avais mis ta foi dans l'Évangile, puis tu as suivi le Seigneur, tu as cru, tu es sauvé. Puis si un jour tu décides, moi je commence à croire à d'autres choses, bien là tu viens de plus croire en la vérité. Tu viens de changer ce que tu croyais. Le salut était dans la foi qui sauve, était en Jésus-Christ puis en sa parole. Puis là on commence à croire en d'autres religions, on embarque là-dedans, on va être perdu. C'est ce que ça dit, on va être cru en vain. Le temps qu'on a passé avec le Seigneur, ça ne comptera plus, ça ne servira plus, parce que là, tu es rendu à un autre Dieu quelconque. Les chrétiens qui mettent leur confiance, même dans la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse était donnée par Dieu pour un but, mais personne ne peut être sauvé par cela. Mais il y a encore du monde aujourd'hui qui pense qu'ils vont être sauvés en pratiquant la loi de Moïse. Là, je ne parle pas des 10 commandements, je parle de la loi, des 613 préceptes de la loi. Dans la loi de Moïse, il y avait 613 applications que le monde devait pratiquer. Puis il y a des chrétiens, dans le temps des apôtres, qu'il était attiré à retourner, à se faire circoncire, puis à commencer à suivre toute la loi de Moïse, puis il pensait de gagner le salut en suivant cette religion-là. Puis, Aujourd'hui, il y a encore la même chose qui se produit. Il y a des églises évangéliques qui mettent leur accent sur la loi de l'Ancien Testament puis qui veulent encore gagner leur justice par les œuvres de la loi. Mais là, dans Galates 5, les versets 2 à 4, nous parle de cela, puis il nous dit que ceux qui s'attachent à la loi pensant vouloir être sauvés, puis il parle à des chrétiens, là, ils vont être déchus de la grâce, séparés de Christ, puis Christ ne leur servira plus de rien s'ils se font circoncis puis ils commencent à pratiquer ces choses. Vous irez lire ce passage-là dans Galates 5, les versets 2 à 4. Le salut peut se perdre. Si tu perds ta foi qui t'amène à être sauvé, le juste vivra par la foi. Il faut rester dans la foi, en la vérité. Puis les chrétiens qui se sont éloignés de la vérité peuvent revenir au Seigneur seul, afin d'être encore sauvés. Il y a un verset qui nous le dit dans Jacques 5, le verset 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, en parlant d'un chrétien, s'est éloigné de la vérité, parce qu'il a commencé à croire en d'autres choses, ou il a abandonné, et qu'un autre les ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, il sauvera un homme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voyez-vous, faut toujours, peu importe l'état de celui qui l'entend la parole, il y a une voie de non-retour, c'est si tu as renié publiquement Jésus-Christ, là, puis tu as parlé contre le Saint-Esprit, t'as blasphémé le Saint-Esprit, ça c'est une voie de non-retour, il n'y a plus rien à faire, tu ne peux pas revenir. Il n'y a pas de pardon possible, Jésus nous a parlé, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais si t'as abandonné la foi dans la vérité et t'as commencé à te tourner vers d'autres choses, sache que Dieu te rappelle à revenir à lui. Puis il te donne encore la possibilité de revenir, pareil comme l'enfant prodige, qui a dit à son père, « Moi, je m'en vais avec donne-moi ma part de mon héritage, puis je m'en vais, puis il est parti la dépenser dans des bouches. » Pour son père, son enfant, il est à mort. Il était séparé de lui, il est à mort. Puis jusqu'au moment où il s'est repenti, puis qu'il a décidé de revenir à son père l'a recueilli, puis il a redonné une alliance, puis il a redonné une nouvelle robe, puis il a fait la fête, il a tué le veau gras, puis ils ont fait la fête. Sache qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu est content qu'on est là, mais il est encore plus content quand il y en a un qui revient à lui. Dieu veut pas que ses brebis se perdent, mais c'est écrit qu'il y en a qui abandonneront. Mais Dieu veut pas. Fait que si, pourquoi qu'une personne, Dieu veut pas les perdre, puis pourquoi que la personne va se perdre, c'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de la personne qui a pris des mauvais choix. Elle a décidé de ne pas écouter Dieu, puis elle a mis sa foi dans d'autres choses. Puis ça, faut que la personne réalise qu'elle s'est égarée, puis qu'elle revienne tout entier à Dieu. Je vous lis un dernier passage dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Le Seigneur demande aux personnes qui se sont égarées, qui ont été dans d'autres religions pendant qu'ils étaient chrétiennes. Ils avaient accepté Jésus, ils étaient sauvés, même s'ils doutaient un petit peu ou la foi n'était pas une grosse foi. Ça prend pas, c'est pas la grosseur de la foi qui compte, c'est de mettre notre foi dans la vraie affaire. On a la foi qu'on a. Une foi, ça s'agrandit, par exemple. On peut grandir dans la foi. Mais s'ils ont abandonné la foi dans le Seigneur, puis ont été dans le monde, puis ont retourné dans d'autres choses, mais qu'ils sachent qu'il y a une chose qui reste à faire pour qu'ils reviennent au Seigneur, c'est de se repentir. Dieu dit qu'on peut revenir à lui. Il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Voyez-vous, ce que ça prend, c'est de la repentance. Réaliser qu'on a fait des erreurs, on a péché devant Dieu quand on est allé fouiné dans les autres religions ou qu'on a abandonné Dieu, on s'est éloigné et on est allé brouter ailleurs. On va appeler ça de même. Où on était comme un bourdon qui butine de fleur en fleur, puis on est rendu de religion en religion. On perd notre salut là, si on s'est rendu qu'on butine ailleurs. Il faut se repentir, regarder ce qui s'est passé dans votre vie, puis revenir aux premières œuvres, c'est quoi? Repentance, confesser que Jésus est sauveur, puis t'engager à le suivre, à le servir, puis à persévérer dans la foi qui sauve. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous amène à retourner à Jésus. Seigneur, on ne veut pas s'éloigner, on ne veut pas aller à d'autres dieux. On n'a pas d'autres dieux que toi, Seigneur. Tu t'es révélé à travers ta parole, la parole de Dieu. Tu t'es révélé à travers Jésus-Christ. Tu t'es révélé par le Saint-Esprit. On t'a reconnu et on t'a accepté. Nous croyons en ta parole, Seigneur, puis on veut marcher par la foi jusqu'à la fin. Garde-nous dans ta main puissante. Sois patient envers nous et enseigne-nous toutes choses pour qu'on marche dans l'obéissance. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies. Puis ramène ceux qui se sont égarés. Puis fais leur comprendre qu'ils sont dans les ténèbres dans ces autres religions-là. Que tes enfants sortent, comme tu nous dis dans Corinthiens, sortez du milieu d'eux, touchez pas à ce qui est impur. Que les gens puissent arrêter de butiner d'un bord puis de l'autre, puis se consacrer à toi et à ta parole. Nous remettons nos vies entre tes mains, dans le nom de Jésus.